This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'homme le plus riche du monde veut s'offrir l'un des réseaux sociaux les plus populaires de la planète. Le lundi 25 avril, l'homme d'affaires américain Elon Musk, à la tête de plusieurs entreprises puissantes comme Tesla ou encore SpaceX, a conclu un accord pour racheter Twitter, montant de l'opération 44 milliards de dollars, soit environ 41 milliards d'euros. Comment ce milliardaire a-t-il réussi à s'emparer de la plateforme? Que veut-il en faire? Et surtout, pourquoi ce rachat a-t-il déclenché une vague d'inquiétude? On revient sur ce feuilleton dans Code Source avec Loïc Piala, correspondant de Radio France et du Parisien à Los Angeles. Loïc Piala, Elon Musk est l'une des 10 personnalités les plus suivies sur Twitter. Le jour où on enregistre cet épisode, il compte plus de 90 millions d'abonnés à travers le monde. Il tweete plusieurs fois par jour et il aime beaucoup plaisanter, voire se moquer.
Il est espiègle, hein, Elon Musk, il tweete souvent des toilettes, hein, c'est lui qui le dit. Il y a une dizaine de jours, par exemple, il a posté une photo de Bill Gates où on voit le ventre bedonnant du fondateur de Microsoft et juste à côté, un emoji, là aussi, avec un ventre bedonnant et la légende « Si vous avez besoin de perdre une érection rapidement ». Alors voilà, c'est taquin, mais il y a une raison derrière cela. Hein. En fait, Elon Musk reproche à Bill Gates de miser contre Tesla en bourse.
Loïc Piala, vous allez nous raconter comment Elon Musk a mis la main sur Twitter et pourquoi cette information a fait la une dans les médias. Mais d'abord, vous allez nous retracer brièvement son parcours. Elon Musk a 50 ans, il est le père de 7 enfants qu'il a eu avec deux compagnes différentes. Il est né le 28 juin 1971 en Afrique du Sud à Pretoria, la capitale administrative. Comment se passe son enfance?
Alors il grandit avec un petit frère, Kimball, une petite sœur, Tosca, dans une famille aisée, dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, hein, dans les années 70. Il va dans une école privée pour garçons, où ça se passe pas forcément très bien pour lui. Il est harcelé par ses camarades, qui l'ont même, raconte-t-il, poussé un jour dans les escaliers. Sa maman est une mannequin, une diététicienne, qui est née au Canada. Son père, lui, Errol, est un ingénieur de formation. Ses parents divorcent quand il a 9 ans et il choisit de rester avec son père. Il dit que c'est une erreur. Il décrit son père presque comme du mal incarné, hein. Il est aussi un enfant relativement discret qui est dans son monde à tel point que ses parents se sont demandé même s'il n'était pas sourd. Et puis c'est un enfant brillant qui s'intéresse déjà à l'informatique et il crée son propre jeu vidéo, Blastar, un jeu vidéo qu'il revend pour $500 à un magazine.
Il a un rêve lorsqu'il est petit, c'est d'explorer l'espace.
Oui, il raconte qu'enfant, il faisait sauter des pétards et qu'il lisait des livres sur les fusées, qu'il construisait lui-même ses fusées. Il se demande même comment il a fait pour garder tous ses doigts, tellement il faisait d'expériences de ce genre. Et puis il lit, encore une fois, beaucoup, un livre comme le Guide du Voyageur Galactique, qui est un livre de chevet, ou encore tout ce qu'a écrit Isaac Asimov, célèbre auteur de science-fiction.
À 17 ans, Elon Musk part faire ses études aux États-Unis. Il décroche son diplôme de physique en 1995 et poursuit son cursus dans une prestigieuse université, Stanford. Mais il arrête au bout de quelques jours pour se lancer dans les affaires. Il cofonde une banque en ligne, X.com.
Ce qu'on va faire, c'est révolutionner l'industrie bancaire. J'ai investi la majorité de ma fortune dans X.com, qui est la nouvelle banque en ligne de référence sur Internet.
Big X.
Exactly. X.com.
Je crois que X.com peut devenir une entreprise dont la valeur se comptera bientôt en milliards.
Ils cofondent cette banque en ligne X.com avec l'argent d'une autre entreprise, déjà un site internet appelé Zip2, qu'il a cofondé avec son frère et qu'il a revendu pour beaucoup d'argent. À 28 ans, il est déjà millionnaire. Il réinvestit une partie de cet argent donc dans X.com, une banque en ligne qui marche très bien, qui se rapproche d'une autre entreprise, Confinity, pour devenir PayPal. PayPal racheté ensuite par eBay pour plus d'un milliard de dollars, et Elon Musk, qui est déjà riche, devient là très riche.
Dans les années 2000, il prend la tête de plusieurs entreprises et se lance des paris fous.
Il y a déjà SpaceX, hein, avec ce rêve de construire des fusées réutilisables. Il fonde l'entreprise en 2002 avec 100 millions de dollars de sa fortune personnelle, et la première fusée décolle en 2006. 3, 2, 1. Puis parallèlement, il y a Tesla, bien sûr, le constructeur de voitures électriques. Alors là, pour le coup, Elon Musk n'est pas le fondateur présent dès l'origine. Tesla est créé en 2003. Lui, il arrive quelques mois plus tard comme investisseur. Il prend les commandes de l'entreprise en 2008 avec ce rêve de rendre les voitures électriques grand public, parce qu'il y a toujours dans son esprit l'idée de changer le monde et de protéger l'environnement avec ses voitures électriques.
Il est réputé pour être quel genre de patron ?
Quelqu'un d'intelligent, incontestablement, quelqu'un d'impliqué aussi. Il travaillerait 80 à 100 heures par semaine, très impulsif aussi et très exigeant, en fixant parfois des objectifs jugés irréalisables, en tout cas sur le délai donné. Mais c'est quelqu'un vraiment de très investi, ça ne fait aucun doute. Il raconte, par exemple, qu'il a dormi sur le sol de l'usine Tesla au moment où l'entreprise rencontrait des difficultés, où il fallait vraiment être présent en permanence pour superviser les opérations.
Loïc Piala, Elon Musk se revendique d'un courant de pensée, le libertarianisme. Qu'est-ce que c'est ?
Pour faire simple, c'est un courant qui est à la fois à droite et à gauche, qui est un courant plutôt progressiste sur des questions sociales, hein, qui est en faveur de la légalisation de la marijuana, qui est en faveur du droit à l'avortement, et qui économiquement plutôt se situe à droite, avec des valeurs plus libérales, et la volonté d'avoir une ingérence minimum du gouvernement. Comme le dit le nom, on est vraiment dans l'idée de liberté de l'individu, que ce soit sur le plan personnel ou le plan économique, avec le minimum d'entraves possible.
En juin 2009, il crée son compte sur un jeune réseau social, Twitter.
Forget blogging and MySpace. If you really want to stay connected, there is a new service and supposedly it is the next big thing. It's a name you can't forget. It's called Twitter.
À quoi ressemble ce site à ce moment-là ?
Alors à ce moment-là, Twitter n'est plus exactement une curiosité. Le site de microblogging a été lancé 3 ans plus tôt. Il a 60 millions d'utilisateurs, mais ce n'est pas encore un géant de la Silicon Valley.
À partir de là, Elon Musk est très actif sur Twitter. Il ne se prive pas de dire presque tout ce qui lui passe par la tête.
Oui, il se plaint régulièrement, par exemple, de la couverture médiatique de Tesla. Il trouve que c'est anormal qu'un accident d'une Tesla fasse la une des informations. Il se moque de CNN après un reportage qu'il juge injuste, en disant « je trouve ça surprenant que CNN existe encore ». Il s'en prend aussi à des hommes politiques comme Bernie Sanders, le fameux sénateur du Vermont, toujours très critique vis-à-vis des milliardaires. Et Elon Musk lui dit quelque chose de fort, hein, « j'oublie que vous êtes vivant parfois », parce que c'est vrai que Bernie Sanders est âgé. Il a aussi comparé Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, à Hitler sur Twitter. Et puis il se sert aussi de Twitter pour attaquer les syndicats qui n'existent pas à Tesla, parce que, comme dans beaucoup d'autres entreprises de la Silicon Valley, on estime que les salaires sont suffisamment élevés, que les conditions de travail sont suffisamment bonnes pour ne pas avoir besoin de syndicats.
En 2019, au début du mois de décembre, il comparaît devant un tribunal américain pour diffamation après un tweet jugé insultant.
Oui, ce tweet remonte à juillet 2018. Vous vous souvenez peut-être, une douzaine d'adolescents thaïs se retrouvent coincés dans une grotte et l'opération de sauvetage passionne le monde, y compris Elon Musk, qui propose de construire une espèce de petite capsule qui pourra s'aventurer dans les grottes pour aller sauver ses enfants. Sauf que il y a sur place un sauveteur britannique, un spécialiste de ce genre d'opération, qui trouve l'idée ridicule et qui dit même à la télévision que Elon Musk peut se coller à ce sous-marin. Là où je pense.
What your thoughts on Elon Musk's idea was?
And stick his submarine where it hurts. Just had absolutely no chance of working.
Elon Musk n'apprécie pas du tout et le traite de pédoguy sur Twitter, de pédophile, d'où donc ce procès en diffamation. Le jury estime qu'il n'y a pas eu diffamation, que c'est une insulte qui entre dans le cadre de la liberté d'expression. Et après le procès, Elon Musk dit que sa foi en l'humanité est restaurée.
À l'automne 2021, le magazine américain Forbes publie son classement annuel des plus grandes fortunes de la planète et Elon Musk devient l'homme le plus riche du monde. Il dépasse le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 270 milliards de dollars. Loïc Piala, sur Twitter, Elon Musk est très influent et avec lui, un tweet peut avoir de lourdes conséquences.
Elon Musk dirige Tesla, qui est l'une des entreprises les plus valorisées de Wall Street. Et Wall Street, on sait, peut être un peu volatile, donc un tweet peut créer beaucoup de panique. En août 2018, par exemple, il annonce sur Twitter qu'il va racheter toutes les actions de Tesla pour sortir l'entreprise de Wall Street, en refaire une entreprise privée. Il va racheter les actions, dit-il, pour 420 dollars, mais c'est une blague, 420. Aux États-Unis, c'est un nom de code pour la marijuana, sauf que la blague ne fait pas rire la SEC, le gendarme de la bourse américaine, qui estime que des investisseurs ont été pénalisés parce que l'action a rapidement chuté en bourse et donc Elon Musk reçoit une amende. Il doit même normalement être supervisé quand il poste un tweet sur Tesla. Ce n'est qu'un exemple, hein. Il parle aussi par exemple des crypto-monnaies. Il suffit qu'il en parle pour qu'une crypto-monnaie prenne énormément de valeur après un de ses tweets.
Loïc Piala, on en vient à cette année 2022, le vendredi 25 mars. Elon Musk pose une question sur Twitter à ses abonnés.
Sur Twitter, on a la possibilité de créer un sondage. C'est ce que fait Elon Musk, hein, et il dit que la liberté d'expression est essentielle au fonctionnement d'une démocratie. Sa question, c'est est-ce que vous croyez que Twitter adhère rigoureusement à ce principe? Il accompagne cette question d'un avertissement, disant que les conséquences de ce sondage seront très importantes. 2 millions de votes pour ce sondage et 70% pensent que non, Twitter n'adhère pas rigoureusement au principe de la liberté d'expression.
Loïc Piala, quelques jours plus tard, le lundi 4 avril, Elon Musk annonce à la surprise générale qu'il a acquis plus de 9% des parts de l'entreprise.
Tesla CEO Elon Musk has now taken a passive stake to 9.2% of Twitter's common stock.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Qu'il devient tout simplement, à ce moment-là, le principal actionnaire de Twitter et donc qu'il peut peser sur la destinée du réseau social.
Est-ce que cette annonce est suivie d'effet ?
Alors Wall Street réagit très bien. Le cours de l'action augmente de 27%. Du côté des médias, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de questions, beaucoup d'étonnement. Certes, Elon Musk est l'un des utilisateurs les plus suivis et les plus actifs de la plateforme, mais que compte-il faire de cet engagement ? Et puis, logiquement, avec 9% des parts, on lui propose d'intégrer le conseil d'administration et il accepte.
Dès le lendemain, le 5 avril, il interroge ses abonnés sur l'utilité d'ajouter un nouveau bouton sur Twitter.
Oui, encore un sondage. Il demande s'il faut une fonction « edit », en fait, une possibilité de corriger un tweet déjà publié, ce qui n'est pas possible sur Twitter. Il faut effacer son post et le réécrire si on veut changer quelque chose. Et dans le sondage, il y a un peu d'humour, hein, parce que Elon Musk est facétieux. « Yes » et « no » sont mal orthographiés. « Yes » est écrit « y-s-e » et « no » « o-n » pour montrer justement que parfois on peut se tromper lorsqu'on tape un message. Et 73% des votes penchent en faveur du oui, 4,5 millions de votes à ce sondage.
Est-ce qu'on sait pourquoi il pose cette question ?
C'est un peu un coup de pression sur le conseil d'administration, parce que cette fonction edit, on en parle depuis des années sur Twitter. Puis c'est aussi un moyen de montrer qu'il compte utiliser ces 9% pour jouer un rôle dans l'entreprise, que ce n'est pas juste un investissement lambda.
6 jours plus tard, il refuse finalement de siéger au conseil d'administration de Twitter.
Mais il s'est engagé pour intégrer le conseil d'administration à limiter ses parts dans l'entreprise à 15%. Il se rend compte que ça ne suffira peut-être pas pour emmener l'entreprise là où il le souhaite. Et donc on comprend qu'il a peut-être envie en fait d'acheter plus que 15% des parts de l'entreprise.
Le jeudi 14 avril, Elon Musk annonce qu'il a déposé une offre pour racheter entièrement Twitter.
Il poste un message très sobre sur Twitter disant « I made an offer, j'ai fait une offre ». Et cette offre, c'est 54,20 $ par action, un peu plus de 40 milliards de dollars en tout pour l'intégralité de Twitter. Et c'est un prix par action qui est au-dessus du cours de l'action.
All right, breaking news. Twitter on fire this morning. Elon Musk, who just bought into the company a few weeks ago and just made a take-it-or-leave-it offer for the whole damn thing. All of Twitter.
Ce jour-là, Elon Musk est au Canada, à Vancouver, où il est interrogé pendant près d'une heure lors d'une conférence.
The biggest visionary of them all, Elon Musk.
Qu'est-ce qu'il dit en substance sur sa tentative de racheter Twitter ?
Alors il insiste sur le fait que ce n'est pas une question d'argent.
Je ne rachète pas Twitter pour me faire de l'argent. Au plus profond de moi, Je pense qu'une plateforme publique, accessible à tous, fiable et inclusive, est extrêmement importante pour le futur de notre civilisation. Je me fiche totalement de la dimension économique.
Pour lui, Twitter est un outil démocratique, un espace public dans lequel tous les utilisateurs doivent pouvoir s'exprimer sans contrainte. Et il estime que pour que Twitter joue pleinement son rôle dans une démocratie, il faut que la plateforme soit pleinement transparente, que les gens ne se demandent pas pourquoi tel tweet apparaît sur leur fil plutôt qu'un autre.
Comment réagissent les observateurs et la presse à ce moment-là ?
On se demande, est-ce que Elon Musk est sérieux ? On a l'habitude avec lui de tweets un peu provocateurs, d'idées un peu folles. Est-ce qu'il va aller au bout de son idée, sachant que effectivement, Twitter ne gagne pas autant d'argent que Google ou Facebook, et 40 milliards de dollars, même pour l'homme le plus riche du monde, c'est une sacrée somme. Et évidemment, on se demande aussi qu'est-ce qu'il va en faire de cette plateforme s'il en prend le contrôle.
Comment réagit le conseil d'administration de Twitter ?
Dès le lendemain, il annonce qu'il compte utiliser ce qu'on appelle à Wall Street une pilule empoisonnée. C'est une méthode commune face à une offre de rachat. En fait, on laisse les actionnaires acheter plus d'actions à des prix très très bas pour diluer finalement ces actions, augmenter le prix de l'entreprise et pousser l'acheteur potentiel à réfléchir. Ça permet au conseil d'administration de gagner un peu de temps, à la fois pour étudier l'offre proposée, mais aussi laisser éventuellement d'autres investisseurs qui pourraient être intéressés se manifester.
Le jeudi 21 avril, Elon Musk détaille son plan pour financer Twitter s'il le rachète. Qu'est-ce qu'il propose en quelques mots ?
Alors, il veut emprunter 13 milliards de dollars de manière relativement classique. 12 autres milliards seront adossés à ses actions Tesla. Et puis ensuite, il va verser son propre argent, 21 milliards. C'est comme ça qu'il compte financer cet énorme rachat.
Loïc Piala, le lundi 25 avril, l'offre de rachat d'Elon Musk finit par être acceptée.
We are following breaking news. The deal is done. Twitter has been sold.
Il tweet un simple yay pour manifester sa joie. Et puis il y a aussi un communiqué expliquant que la liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne et que Twitter est la place publique digitale où des questions vitales au futur de l'humanité sont débattues. Elon Musk explique que Twitter a un énorme potentiel et qu'il a hâte de le débloquer.
Est-ce qu'il dévoile les changements qu'il veut apporter au réseau social ?
Il reste un peu vague, hein, mais il dit qu'il veut améliorer le produit Twitter avec de nouvelles fonctions. Il veut aussi qu'il y ait un libre accès à l'algorithme pour améliorer la confiance dans l'outil Twitter. Il veut aussi ce qu'il appelle battre des armées de bots. Les bots, ce sont ces logiciels qui se font passer pour des êtres humains sur Twitter et qui polluent parfois les conversations. Il veut justement aussi authentifier tous les comptes, s'assurer qu'il y a bien un être humain derrière chaque compte.
Après l'annonce de ce rachat, quelles sont les réactions aux États-Unis au sein de la classe politique ?
Côté conservateur, on est ravis. On voit Elon Musk presque comme un héros, un défenseur de la démocratie, de la liberté d'expression. Les conservateurs aux États-Unis sont convaincus que Twitter est un repère de gauchistes qui les censurent et voient donc dans Elon Musk un chevalier blanc qui va tout remettre en ordre. Et puis à gauche, en revanche, on s'inquiète de voir un tel outil entre les mains d'un seul homme. On n'est pas convaincu nécessairement par sa vision de la liberté d'expression. On s'inquiète par exemple de voir remonter des théories complotistes ou une montée du harcèlement en ligne. Pour la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, par exemple, qui a été candidate à la primaire pour la Maison-Blanche, très clairement, ce rachat de Twitter, elle le dit, est dangereux pour notre démocratie.
Au bout du compte, tout se résume à une question. Qui va avoir le pouvoir dans ce pays ? Va-t-on prendre ces décisions en tant que démocratie ou laisser Elon Musk, un milliardaire, prendre les décisions tout seul en se fixant ses propres règles. C'est ça qui est en jeu avec le rachat de Twitter.
Et dans le camp conservateur, certains espèrent aussi le retour sur Twitter de l'ancien président américain Donald Trump, qui avait été, on le rappelle, banni après l'invasion du Capitole en janvier 2021.
Oui, il avait plus de 80 millions de followers sur Twitter à l'époque et on voit cette arrivée d'Elon Musk comme la possibilité d'ouvrir la porte à un retour. Mais l'ex-président américain confie à Fox News dans la foulée qu'il n'est pas intéressé, qu'il a déjà son propre réseau social, Truth Social, et qu'il veut se focaliser sur celui-là plutôt que revenir sur Twitter, un réseau qui lui a beaucoup servi dans sa carrière politique.
Est-ce qu'il y a des réactions ailleurs dans le monde ?
Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, par exemple, qui publie rapidement un message en forme d'avertissement franc à Elon Musk en lui disant que ce soit les voitures ou les réseaux sociaux, toute société opérant en Europe a besoin de respecter les règles. Donc en substance, il explique au milliardaire que la liberté d'expression totale dont il rêve restera tout de même soumise à un cadre législatif en Europe.
Loïc Piala, depuis le début du mois d'avril, l'offensive d'Elon Musk sur Twitter fait beaucoup parler, mais elle soulève encore pas mal d'interrogations.
Oui, alors on ne sait pas exactement, encore une fois, ce que Elon Musk va faire de Twitter. Peut-être qu'il n'arrivera pas d'ailleurs à imposer tout ce qu'il souhaite, mais est-ce que Twitter va devenir un champ de bataille pour les 330 millions d'utilisateurs ? Qu'est-ce qu'il va arriver aussi aux salariés de Twitter ? Certains ont fait part quand même de leur inquiétude avec un patron comme Elon Musk. Et puis très franchement, il est aussi possible que l'opération n'aille pas au bout. Il faut savoir qu'il y a une pénalité de 1 milliard de dollars prévu pour les deux parties qui souhaiteraient se retirer de la transaction. Peut-être que Elon Musk se dira que l'idée n'était finalement pas si bonne. Il a 6 mois pour boucler cette acquisition.
Merci à Loïc Piala. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amourou et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou simplement nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire sur Twitter, @codesource, ou par mail, codesource@leparisien.fr.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.